RFI, grand reportage.
En Argentine, les péronistes Alberto Fernandez et Cristina Kirchner font leur retour à la Maison Rose. L'ancien chef de cabinet des époux Kirchner, dans le bureau du président, l'ancienne chef d'État à la vice-présidence. Élus dès le premier tour, ils font face à un défi de taille, sortir le pays de la crise économique. Le peso a dégringolé cette année, l'inflation dépasse les 50% et plus d'une personne sur trois est pauvre. Dans ce contexte, l'équation est difficile également pour les nombreuses PME. Argentine, les petites et moyennes entreprises de Cordoba dans la tempête de la crise économique, un grand reportage de Pauline Glaise.
On avait un magasin et on l'a vendu. Là, on réfléchit à ce qu'on va faire.
Fernando Sandoval attend dans la longue file qui mène jusqu'au guichet de l'administration nationale de la sécurité sociale dans un marché couvert. La crise a eu raison de son garage spécialisé dans les pneus.
Les gens utilisent moins la voiture, donc l'activité baisse. Mais les charges fixes, l'électricité, le loyer restent les mêmes. Donc oui, on a vendu il y a deux jours. J'ai 46 ans et à mon âge, c'est dur de trouver du travail. Mais bon, on va entreprendre quelque chose. On fera autre chose dans un autre domaine. En Argentine, on supporte toujours tout. On a traversé des moments difficiles. Cela en fait un de plus et on va aller de l'avant.
Les affiches Alquila, Alloué qui fleurissent sur les vitrines des boutiques fermées dans le centre-ville en témoignent. L'affaire de Fernando Sandoval n'est pas la seule à avoir succombé. Dans le magasin de chaussures qu'il gère, Mauro C. tient le choc, mais la crise laisse des traces.
En réalité, la conjoncture actuelle n'est pas facile. On a dû réduire les effectifs parce que les charges fixes sont trop élevées. Cela oblige les entreprises à se restructurer, à se réinventer. Donc, on se réinvente. Cela passe par la manière de faire du commerce, avec le commerce en ligne, chercher à implanter des succursales dans d'autres zones, chercher des produits pour des publics différents. Quand tout allait bien, on se spécialisait. Mais là, il faut s'ouvrir pour toucher davantage de personnes. Voilà ce qu'on fait.
Esas son cosas que se están haciendo.
Le secteur immobilier est lui aussi frappé par les difficultés économiques. À Cordoba, l'indice des ventes a chuté de 15% sur un an en septembre. Seuls les terrains tirent leur épingle du jeu. La spécialité de Diego Jiménez, le patron d'Indice Immobiliario.
On a réussi à rester à flot, mais c'est vrai qu'en fin d'année dernière, on allait très mal. Cette année, depuis février, on a réussi à se stabiliser, mais au prix de gros investissements en publicité, de penser stratégie en permanence, changer de stratégie mois après mois. On a investi dans de nouveaux canaux publicitaires, sur les routes, autoroutes, à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, Google, etc. Auparavant, on ne travaillait pas autant sur le marketing numérique. L'année dernière, par exemple, pour 100 personnes qui consultaient une annonce, on faisait 20 ventes. Aujourd'hui, pour 20 ventes, on a besoin de 350 visites. Donc, il faut essayer d'être plus présent. Et évidemment, cela a un coût. Mais bon, on arrive encore à les supporter et on est toujours debout.
Mais bon, todavía los costos nos están dando, así que estamos en pie todavía.
Franco Estrasa, l'un de ses collègues et concurrents, travaille aussi sur les offres pour bien comprendre les produits et les vendre au mieux, alors que les biens disponibles s'accumulent.
Le nombre de ventes a chuté d'environ 30%. Le chiffre d'affaires, c'est autre chose. Mes revenus en dollars ont chuté drastiquement. Mais en pesos, je n'ai pas à me plaindre. On sait qu'il y a des cycles dans le pays, que tous les deux ou trois ans, il va se passer quelque chose et ça va s'arranger. Quelque chose va arriver et ça va s'arranger. Et les cycles sont de plus en plus courts. Mais je remarque que notre réponse intervient de plus en plus rapidement. Après les primaires du mois d'août, le dollar s'est hissé de 40 à 63 pesos en quelques heures. Et 10 jours après, on savait déjà quelle décision prendre.
À los 10 días ya estábamos viendo qué medidas tomar.
La viande de bœuf a chuté de plus de 21%. Là, on voit une plus forte consommation. Les infusions sont en hausse. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ne dînent pas et qui prennent simplement un thé ou un maté.
Herman Alejandro Romero scrute les chiffres de la consommation dans la province. En un an, les habitudes alimentaires ont beaucoup évolué. Et le compte aussi la réduction du nombre de magasins de proximité à Cordoba. 46 fermetures en septembre dernier pour seulement 17 ouvertures. Un déséquilibre qui inquiète le directeur général du centre des épiciers et des commerçants de détail de Cordoba, peu avare de conseils.
La première chose à faire, c'est de réduire la marge. Il vaut mieux avoir 50 clients qui puissent acheter la marchandise que vendre à 10 personnes à un prix élevé. Deuxièmement, il faut essayer de proposer des offres tous les jours. Par exemple, pour les commerces alimentaires, on leur recommande de suggérer des menus du jour. Une autre possibilité, c'est de vendre comme cela se faisait avant, non pas 1 kg de sucre, mais 100 ou 200 grammes. C'est un peu ce qu'il se passe dans les boucheries. Les gens n'achètent plus 1 kg de viande, mais ce qu'ils peuvent avoir pour la valeur d'un billet.
Est-ce qu'il faut des aides en particulier pour les PME ?
C'est toujours les PME qui payent les pots cassés. Elles ont besoin d'une grande aide du gouvernement. Elles sont un pilier de l'économie du pays. Mais il n'y a pas d'aide et elles meurent rapidement. Il faut les aider à trouver des financements. Une PME qui commence, elle a besoin de financement et de formation. Sans ces deux outils, elle ne pourra pas grandir.
Indudablemente no va a poder crecer.
¿Qué acciones críticas debo realizar para operar de manera exitosa?
Précisément, le centre accueille cet après-midi-là un cours d'aide à la gestion d'entreprise. Des élèves de tout âge remplissent de grandes feuilles pour structurer leur projet. Mariela Ibáñez a pris un peu d'avance.
Je suis coiffeuse avec 30 ans de carrière derrière moi. J'avais beaucoup de clients, mais des habitués. Je n'en attirais pas de nouveaux. J'ai su qu'il y avait ce cours, alors je suis venue avec une proposition pour ouvrir une entreprise qui vend des produits pour les coiffeurs. Et ici, ils m'ont fait envisager une autre idée. Et j'ai décidé d'ouvrir en plus un autre salon de coiffure et d'esthéticienne. Dans le secteur de la coiffure, la fréquentation a baissé. Mais on peut avoir des stratégies pour augmenter les ventes en ajoutant le maquillage, les manicures, l'épilation. Il ne faut pas se contenter de s'occuper des cheveux. Je le savais avant, mais ici, on nous aide à savoir comment réaliser ces stratégies pour que le client revienne et reste dans le salon pour tout faire.
Assis quelques rangs derrière, Marcelo Cassos a particulièrement besoin de ses conseils en ce moment.
J'ai 50 ans et vu la situation du pays, c'est très difficile pour moi de revenir sur le marché du travail. J'ai travaillé pendant 25 ans dans une usine de camions, ils ont beaucoup réduit le personnel. Et donc j'ai dû changer et je n'ai pas d'autre choix que de lancer mon entreprise.
Et donc c'est la crise qui vous pousse à créer votre entreprise ?
Oui, c'est l'histoire de l'Argentine. Quand on est au fond du trou, on est plus à même de concrétiser ses idées que quand tout va bien. Cela fait 15 ans qu'on y travaillait. C'était un tout petit projet et il s'est agrandi. Maintenant, il doit grossir par nécessité.
Merci.
Les taxis jaunes ou verts arpentent les rues perpendiculaires de Cordoba au rythme de l'économie de la ville. Miguel Angel, 30 ans de métier, observe les changements au volant d'un véhicule plutôt jeune.
La crise est bien visible. À une certaine période du mois, on remarque le manque de tout, de travail, d'argent. Nous, on est comme un baromètre. Le 15 du mois, déjà, on voit la différence. Les gens hiérarchisent leurs dépenses car ils n'ont pas assez d'argent pour tout. Donc ce dont ils se privent en premier, c'est le taxi. Si ça n'est pas pour une urgence, ils ne vont plus au ciné ou à des spectacles. Les nouveaux dirigeants étaient déjà là avant le président actuel. Et cela a été un drame aussi parce qu'ils ont tout pris. Donc je ne sais pas qui est le meilleur. Maintenant, le futur gouvernement devra beaucoup travailler sur des dossiers économiques, parce qu'il faut redresser le pays.
Et le tarif des courses, il est suffisant ?
Non, en ce moment, rien n'est suffisant.
Miguel Angel s'arrête devant un grand bâtiment sans charme. L'édifice est pourtant une attraction dans le quartier.
Ce club a été fondé en 1941. C'est un club social, avec des activités culturelles, récréatives et sportives.
Marcelo Sanchez est le secrétaire de cette association à but non lucratif, mais comme les entreprises, elle tente de s'adapter.
Depuis la réouverture en 2006, on n'a jamais arrêté de faire des travaux jusqu'en 2018. Là, on a dû arrêter car la situation était devenue très compliquée. Ces derniers temps, nos efforts pour maîtriser le budget relèvent presque de l'architecture ou de l'ingénierie, en particulier en raison de la hausse des prix. En 2016, vu les augmentations annoncées, on a décidé de remplacer toutes les installations lumineuses que l'on pouvait par des LED. Grâce à ça, on paie seulement 80 000 pesos, 1 200 euros d'électricité. Sinon, on paierait le triple tous les mois. Mais en 2016, on payait 15 000 pesos tous les 2 mois. Alors comment on couvre tous ces frais? En organisant des événements. Et puis, beaucoup d'activités comme le basket doivent prendre à leur charge les frais d'arbitrage ou frais médicaux. Ce sont les joueurs qui doivent les payer.
Des anniversaires fêtés au bord de la piscine couverte ou sur le terrain de football.
C'est très joli et familial, et surtout c'est abordable, et c'est important pour les parents. Il y a des endroits très chers, alors vu ce qu'on traverse en ce moment, ça aide.
On a un système de bourses. Le club aide davantage d'enfants qui ne peuvent pas payer. Il y a des petits qui ont arrêté de venir. Le tissu social du club a changé. Avant, il y avait des gens qui avaient peu de moyens qui venaient et qui désormais ne viennent plus.
Retour dans le centre de Cordoba devant la Maison du Futur, un espace de formation et d'accompagnement pour les jeunes, un lieu d'activité culturelle également. Sur le parvis de l'édifice pyramidal, la musique de la tramocha attire les passants, un instant de poésie offert par des artistes qui n'échappent pas à la crise, comme en témoignent Sébastien Barroso, le batteur, et Pablo Dolinsky, le violoncelliste.
J'ai quelques heures de cours à l'école publique et je donne aussi des cours particuliers chez moi. Mais il y a moins de travail, c'est plus compliqué et des élèves arrêtent même de prendre des cours.
Je suis Pablo.
Moi, c'est Pablo. Je suis aussi musicien et enseignant, mais surtout, je répare des pianos. Et ces dernières années, dans les 3 activités que je mène, cela a été compliqué de continuer à travailler. Il y a moins d'espace pour jouer de la musique et cela paye moins bien. Le salaire d'enseignant m'apporte chaque fois moins de pouvoir d'achat. Et en ce qui concerne les pianos, n'en parlons même pas. Je travaille avec des pièces de rechange et la dévaluation du peso a eu un effet terrible. Il y a eu beaucoup de ramdam autour du fait que le marché s'ouvrait à des produits venus de l'étranger. Mais au final, c'est l'effet contraire qui s'est produit. On ne peut pas payer les produits parce que c'est bien trop cher. Cette année, on n'a pas pu investir dans l'atelier. On s'est contenté d'essayer de survivre. Parfois, on se déplace à 200, 300, 500, même 700 km d'ici. On amène l'atelier sur place, en quelque sorte.
Et comme llevar el taller al lugar.
Moins harmonieux, le vrombissement des ateliers de Soipren. Les ouvriers sont affairés à leur poste pour fabriquer des systèmes hydrauliques. Néanmoins, l'activité de cette entreprise de 140 salariés est ralentie, regrette son directeur général Alejandro Pisciani.
On vit 2 crises. La crise argentine, déjà l'an dernier, nos ventes dans le pays sont très liées à l'agriculture et elle a subi une grosse sécheresse. Et cela a eu un effet sur la fabrication d'engins agricoles. Et ensuite, en mai, les taux d'intérêt ont commencé à exploser et cela a porté un grand coup à la demande intérieure. Et en plus de ça, l'année dernière également, la crise internationale a commencé. Donald Trump a sorti l'artillerie lourde contre la Chine et notre secteur a été chamboulé. Quand Donald Trump menace le Mexique, un de nos clients mexicains vend beaucoup de tracteurs aux États-Unis. Or, normalement, il nous achète des pièces pour cette ligne de production. On a commencé à modifier la production pour ne pas supprimer d'emplois. On a réduit le nombre d'heures de travail. On s'est adapté à la situation en ramenant ici du travail qui était externalisé. Et si tout cela continue, si cela empire, on devra prendre une décision difficile et mettre 20 ou 30 personnes à la porte.
Certaines entreprises travaillent à 30-40% de leur capacité. Une année d'autant plus difficile que beaucoup de décisions ont été retardées dans l'attente du résultat de la présidentielle. Pablo Camacho, directeur de la Chambre d'industrie métallurgique de Cordoba, a une idée claire de ce qu'il faudrait pour l'industrie.
Première étape, remettre de l'ordre dans l'économie. Pour l'étape suivante, on demande à ce qu'il y ait un modèle productif. On doit prendre des décisions. Ça, on le produit, on parie là-dessus. Ça, on doit peut-être pas le produire. Mais en même temps, il faut réfléchir à ce que l'on fait pour que ceux qui étaient dans ce secteur se transforment.
À côté de lui, le secrétaire de l'institution et lui-même entrepreneur reprochent aux autorités de ne pas s'intéresser assez à la microéconomie. Pour l'instant, la société de César Galfione travaille toujours sur des projets, mais l'horizon est flou.
Avoir du travail en Argentine, cela ne veut pas dire que cela va bien. Le problème, c'est que l'on a du travail, mais que cela n'est pas rentable, à cause de ce que beaucoup appellent un manque de compétitivité. La fiscalité est très élevée, on a un problème de matières premières qui sont plus chères qu'ailleurs, et on a un problème de coût du travail.
Et si ce n'est pas rentable, comment vous voyez l'avenir ?
Depuis qu'on a lancé l'entreprise, j'ai dû vivre 6 ou 7 grandes crises. Ça vous prépare.
Préparé ou pas, César Galfione n'a pas les cartes en main.
C'est très difficile de travailler dans ce contexte inflationniste. Ce sont des négociations permanentes avec les clients et les fournisseurs. On fait un devis, 2 mois plus tard, ce n'est plus le même prix. Le client peut tout comprendre, mais en fonction du pouvoir de chaque client, il négocie comme il veut.
Pero en base al poder de cada cliente, te negocia como él quiere.
Alors que beaucoup sont fouettés par les vents violents de la tempête économique, Technos semble bénéficier d'une éclaircie. L'entreprise familiale, spécialisée dans le matériel pour le travail du béton, est née de la crise de 2001. Et Santiago Núñez, co-gérant de Technos, n'a pas peur de l'orage.
À nous, la crise.
Nous, la crise, elle ne nous a pas affectés. Et je crois même qu'elle nous a stimulés. La crise a deux visages. Quand le dollar monte, pour le marché intérieur, les prix en dollars sont très chers. Mais de l'autre côté du miroir, il y a le marché extérieur. Et là, on n'est pas cher en dollars. Cette année, 20% de notre chiffre d'affaires, ce sont des exportations. Nos ventes ont augmenté. On a augmenté notre gamme de produits aussi, pour pouvoir équilibrer. Comme ça, si un produit s'effondrait, ça permettrait de compenser avec un autre. Et on a embauché. On essaie de faire en sorte que notre entreprise soit comme notre petit pays utopique.
Nous voici au soir du premier et finalement unique tour de la présidentielle. Eduardo Fernandez harangue la foule de péronistes venus célébrer la victoire de leur camp au niveau national. Dans la province, favorable à Mauricio Macri, le président sortant, il est l'un des rares candidats du Frente de Todos à être élu député. Président d'une association de petites et moyennes entreprises, il évoque à notre micro ce qu'il souhaite mettre en place pour les PME.
On a un cadre législatif qui qualifie ce que sont les petites et moyennes entreprises et qui fait que l'État doit travailler à la protection et à la promotion des entreprises. Il faut aussi qu'il y ait une différenciation claire dans le système fiscal entre les petites et les grandes entreprises. Le système financier doit aussi favoriser l'accès au crédit pour la consommation et pour le capital d'exploitation des PME. Aujourd'hui, ces taux sont le fait de l'administration qui juge nécessaire de limiter la circulation de l'argent selon les critères d'une pseudo-théorie anti-inflationniste.
Lui-même a hérité d'une entreprise dans le secteur alimentaire.
Mon frère continue, mais ça va mal. Et on espère que les choses vont changer, surtout après ce qui vient de se produire cette nuit.
L'économie argentine ne devrait pas se relever rapidement. Le FMI voit la récession se poursuivre en 2020 avec un recul de 1,3% du PIB.
Argentine, les petites et moyennes entreprises de Cordoba dans la tempête de la crise économique. Un grand reportage de Pauline Glaise, réalisation Eva Piedel, à retrouver bien sûr sur le site internet de RFI.
Aguante. Appelez-nous.